Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré à l'entreprise de demain avec Aiko et Uzbek Erika. Et pour ce troisième épisode, il sera question d'hybrid maker ou travailleur hybride en français. On reviendra plus précisément sur la définition d'hybrid maker, mais il s'agit, pour résumer, de profils de salariés ou de freelanceurs dotés de compétences multiples et capables de s'adapter à des tâches très diverses jusqu'à créer parfois leur propre métier. Alors d'où viennent ces travailleurs d'un nouveau genre? Assiste-t-on aujourd'hui à une réelle hybridation des métiers? Et comment les entreprises traditionnelles doivent-elles s'adapter à ce nouveau mode de travail? Pour tenter de répondre à ces questions, et bien d'autres encore, nous sommes avec Béatrice Thor. Alors Béatrice, vous êtes partenaire associée chez Aiko, un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leur transformation responsable et durable. Nous sommes également avec Audrey Chapeau, anthropologue, chercheure indépendante et praticienne éclectique. Audrey, vous décryptez ce qui influence nos mentalités, nos comportements et nos décisions individuellement et collectivement. Et vous avez publié le livre « Éloge des métiers hybrides pour les touche-à-tout et les autres » en mars 2021. Audrey, on va commencer avec vous. Vous développez dans vos recherches l'idée que l'homme est naturellement fait pour des tâches hybrides. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et finalement, est-ce qu'on doit en déduire que notre façon de fonctionner aujourd'hui dans le monde du travail est un peu contre nature?
Oui, bonjour Mélanie. Effectivement, mes recherches en fait partent d'un double constat. Premièrement, individuellement, il se trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont mal à l'aise dans leur situation professionnelle ou en tout cas qui souhaitent en changer, qui souhaitent l'adapter. Donc ça, c'est un constat déjà qui se fait depuis plusieurs années, j'ai même envie de dire presque plusieurs décennies, hein, et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et puis le deuxième constat que j'ai pu faire, là vraiment en tant qu'anthropologue, et pas uniquement sur le terrain de l'entreprise ou du monde du travail, mais vraiment sur le temps long, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain? Quelles sont ses spécificités? Et on se rend compte que dans le temps long, donc nos ancêtres très 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 éloignés, ou même dans d'autres cultures qui existent encore aujourd'hui, le rapport au travail, en tout cas le rapport aux activités, je préfère parler d'activités dans ce cas-là, est totalement différent. Et en croisant ces deux constats-là, j'en suis venue à la conclusion, en fin de compte, que l'être humain n'est pas fait pour vivre selon une tâche, un métier, une activité unique. Il a besoin de diversité. C'est un être de diversité, de curiosité, qui a besoin d'expérimenter. Et c'est là que rentre toute la créativité, en fin de compte. Et si on focalise ça sur l'aspect activité professionnelle, bah on se rend compte que l'être humain a besoin de polyactivité. Alors, soit d'avoir plusieurs activités les unes à côté des autres, soit de les mélanger les unes avec les autres, ce qui amène à ce que j'ai appelé métier hybride et qu'on entend de plus en plus, alors que vous décrivez par hybrid maker, mais l'idée est la même, en fin de compte. On a besoin de mélanger plusieurs activités pour inventer de nouveaux métiers ou de nouvelles activités professionnelles. Donc effectivement, le fait aujourd'hui d'être encore dans cette habitude, encore prépondérante, mais plus pour longtemps, on en parlera plus tard, dans cette habitude d'avoir une activité unique sur de nombreuses années, c'est contre nature. De mon point de vue, quand on regarde les spécificités de l'être humain, de notre espèce, c'est contre nature. Donc certains s'y adaptent très bien et d'autres ont besoin de revenir à ce qui est juste pour eux en fait.
Béatrice Thor, justement, chez Aiko, les collaborateurs sont présentés comme des hybrid makers. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement?
Alors pour nous, hybrid maker, ça veut dire de développer, au-delà des compétences conseil, des compétences différentes sur trois domaines principaux, sur la data, sur le design et sur la transformation des hommes. Donc, chez nous, c'est pas tant mélanger des activités, puisque c'est déjà un peu impropre du métier de conseil, mais c'est surtout développer des compétences complémentaires. Et la partie maker, l'idée, c'est d'être capable d'aller au-delà de la recommandation, de faire concrètement, c'est-à-dire une capacité à expérimenter et une capacité à mettre en œuvre concrètement pour une mise en production, une mise en marché plus rapide. Donc en ça, on rejoint aussi le sujet du touche-à-tout dont parle Audrey, c'est-à-dire qu'on est maker, on met les mains dans le cambouis et à tout au sens où on développe un maximum de compétences et donc d'activités.
Audrey, alors on a déjà eu quelques éléments de réponse, mais vous constatez un mouvement plus global dans le monde de l'entreprise pour sortir de cette hyper-spécialisation qu'on évoquait. Pourquoi ce mouvement ?
Alors en fait, l'idée, c'est de revenir sur le temps long, c'est-à-dire de ne plus avoir une focale sur ce qui se passe depuis quelques décennies, voire un siècle ou deux, mais de prendre un petit peu plus de recul, de changer de perspective. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, des entreprises au sens large, est une conséquence de ce qui a été mis en place par l'époque de l'industrialisation, hein, donc on va dire 19e siècle, mais ça a commencé un petit peu avant aussi, qui était de, on va dire, d'utiliser les êtres humains pour fabriquer des objets, donc dans les usines au départ. Donc de la main-d'œuvre. L'être humain était un instrument pour fabriquer des objets. Et ensuite, avec le temps, alors évidemment, là je caricature un petit peu, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée, en fin de compte, de ce qui s'est mis en place au niveau des sociétés. Et au fur et à mesure, la main-d'œuvre matérielle s'est transformée en main-d'œuvre intellectuelle avec les sociétés de services et l'apanage des sociétés de services. Donc aujourd'hui, on est dans une civilisation où la société de services trône et on en voit aujourd'hui les excès et les dérives. Alors évidemment, ça n'a pas commencé uniquement au moment de l'industrialisation, ça a commencé aussi dans d'autres domaines avec les grandes civilisations et les besoins de main-d'œuvre pour construire des villes, des cités, etc. Mais c'était la même idée. Et en fait, quand on regarde ça, on se dit, mais avant, qu'est-ce qui se passait? Et l'être humain, il existait bien avant ces grandes civilisations. Et il avait d'autres compétences, d'autres moyens d'avoir un rapport au monde et d'avoir des activités et de pouvoir vivre. Alors on peut se dire, ok, on est dans des champs complètement différents parce que la vie, la préhistoire n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. N'empêche que l'être humain, siècle après siècle, depuis, on va dire, 2 millénaires et encore plus depuis 2 siècles, s'est habitué à être contraint à un mode de vie avec des activités professionnelles qui, en fin de compte, l'épuisent et ne lui permettent pas de travailler au mieux de ce qu'il a à proposer. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment au moment de rupture, en fin de compte, parce que ce modèle-là ne fonctionne plus du tout. Et quand vous me parliez tout à l'heure de l'hyperspécialisation, au niveau de l'entreprise, en parallèle de ce mouvement de l'individu est un instrument pour fabriquer des services ou fabriquer des objets, en parallèle, on s'est rendu compte que c'était pour des objectifs de performance, de compétitivité, etc., il fallait se spécialiser de plus en plus. Très bien, ça a été extrêmement enrichissant, juste et facilitant pendant une certaine période, sauf que ça a été trop loin. Et les entreprises, globalement, se sont rendues compte que l'hyperspécialisation, en fin de compte, portait préjudice aux entreprises, parce qu'en fin de compte, il n'y avait plus de communication entre les services possibles, il y avait un manque de généralistes. Et depuis quelques années, depuis même, on va dire, une bonne décennie, certaines entreprises, en fonction des secteurs d'activité, de la taille d'entreprise, etc., ont commencé à se rendre compte que c'était bien pendant un moment d'externaliser et de s'hyperspécialiser au sein de l'entreprise, de se concentrer sur le cœur de métier, mais qu'il fallait faire marche arrière. Donc, petit à petit, on commence à faire marche arrière en remettant de la transversalité, en remettant des généralistes qui sont valorisés de plus en plus en tant que généralistes, là où pendant un temps, c'était plus le cas. Et donc, ce mouvement-là, il est en cours, mais il n'est pas encore suffisamment valorisé et il n'y a pas encore suffisamment de généralistes qui reprennent les rênes au sein de l'entreprise. Alors, même si on parle beaucoup des managements, on essaie de valoriser les managers et autres, mais ce n'est pas encore suffisant. Enfin, on est encore dans une période où l'entreprise cherche son modèle, on va dire, pour trouver un équilibre correct. L'idée n'étant pas du tout d'enlever totalement les hyperspécialistes, parce qu'ils sont nécessaires, mais de trouver un meilleur équilibre entre les spécialistes et les généralistes. Enfin, c'est ça l'objectif, si on veut retrouver une cohérence interne et une capacité et une pérennité pour les entreprises dans leur posture et dans ce qu'elles proposent à leurs clients.
On reviendra justement sur cet équilibre à trouver. Béatrice, selon vous, qu'est-ce que cette hybridation apporte aux collaborateurs?
Je pense que c'est ce que disait Audrey, c'est-à-dire que ça permet aussi une certaine forme d'épanouissement en multipliant les compétences. Pour moi, au-delà du sujet de généraliste, c'est aussi le multispécialiste ou le polycompétent. Je pense que c'est déjà la première chose que ça apporte. Aussi, une employabilité plus forte. Hein, plus on développe de compétences et plus on sait faire de choses, plus on est en capacité aussi de les mettre au profit d'autres métiers demain ou d'autres entreprises. Et puis, ça apporte aussi des nouvelles clés de lecture pour comprendre les différentes problématiques, de nouveaux outils, finalement, aussi pour les traiter.
Et est-ce que finalement, toujours pour vous, Béatrice, est-ce que finalement cette hybridation rejoint le besoin de s'adapter pour être mieux préparé à un monde plus complexe ? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ?
Oui, je pense qu'effectivement, parce qu'en fait, en multipliant les compétences, on multiplie aussi les perspectives pour étudier et pour comprendre un problème et les outils aussi pour le faire. Pour prendre un exemple concret, j'ai le sentiment, mais Audrey me contredira peut-être, mais j'ai le sentiment que on a aussi beaucoup opposé les métiers très artistiques et les métiers très scientifiques ou autres. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, notamment en s'hybridant sur les sujets data et design, mais principalement sur les sujets de design, c'est finalement de ramener cet esprit créatif, artistique qui repart du besoin du destinataire final. Et du coup, c'est une nouvelle perspective pour étudier, pour comprendre un problème. Ça permet d'utiliser de nouveaux outils aussi pour traiter ces problèmes. Finalement, c'est des nouvelles façons d'approcher les choses. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, si on prend le sujet de la data, c'est aussi une autre façon d'approcher les choses. En ayant une meilleure gouvernance des données et en exploitant mieux ces données, on est en capacité de comprendre les problèmes différemment, de comprendre des problèmes complexes. Typiquement, pour vous donner des exemples, dans le sujet du marketing, par exemple, en creusant les données, on est en capacité d'identifier quels sont les différents leviers qui vont faire qu'un client va racheter ou au contraire va se détourner d'une entreprise et on peut même aller prédire des choses. Donc finalement, c'est des outils complémentaires qui nous permettent de comprendre et d'appréhender des problèmes complexes.
Audrey, est-ce que vous alignez avec ce que vient de dire Béatrice ?
Complètement, je suis tout à fait d'accord. L'avantage, en fin de compte, c'est de créer des passerelles, c'est de créer de la richesse, déjà avec cette polyactivité ou cette polycompétence et d'autres perspectives, comme le disait Béatrice. Et c'est aussi de créer de nouvelles passerelles, c'est-à-dire de sortir de la voie unique ou de voies déjà connues pour explorer d'autres possibilités. Et c'est là qu'arrive l'inventivité, la créativité, l'innovation et donc l'adaptation au monde actuel. Parce qu'il ne faut pas oublier que individuellement ou au niveau de l'entreprise, l'objectif est de rester dans le vent, on va dire. Mais pas rester dans le vent au sens marketing du terme, mais rester dans le vent par rapport à comment la société évolue, de quoi elle a besoin et comment on peut répondre à ces besoins-là. Et donc, c'est qu'avec ces passerelles et ces ponts-là, individuellement et collectivement au niveau de l'entreprise et même de la société, qu'on pourra y arriver. Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui.
On va maintenant parler de la mise en place, hein, très, très concrète, de cette hybridation. Béatrice, on va commencer avec vous. Vous pensez qu'il faut un mode d'emploi pour mettre en place l'hybridation à l'échelle de l'entreprise ?
Alors, un mode d'emploi, j'utiliserai pas ce terme, surtout qu'à mon sens, c'est pas, y a pas de recette parfaite, il n'y a pas d'étape parfaite. Au contraire, pour moi, je pense qu'il faut surtout un état d'esprit, une volonté de s'ouvrir, parce qu'en s'hybridant à de nouvelles compétences, en développant de nouvelles compétences, on se confronte aussi à d'autres types de profils. Typiquement, nous, on va se confronter à des designers, on va se confronter à des spécialistes de la data, on va se confronter à des spécialistes de la transformation humaine qui n'ont pas toujours nos modes de pensée. Et du coup, pour moi, il faut vraiment un état d'esprit très curieux, très ouvert, une vraie volonté d'apprendre des nouvelles choses et une vraie volonté de perdre un peu ses repères aussi, de ne plus faire les choses telles qu'on les a faites jusqu'à présent et de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Donc pour moi, c'est plutôt un état d'esprit, de curiosité, d'ouverture, le fait de s'entourer des bonnes personnes aussi, et puis bien sûr, quelques outils de formation et autres, bien entendu, mais c'est surtout un état d'esprit et le fait de se confronter à d'autres types de compétences, à d'autres types de métiers, à d'autres types de personnalités.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des collaborateurs justement pour réussir cette hybridation ?
Oui, alors premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former tous nos collaborateurs sur les sujets data, design et transformation humaine. Donc, c'est au moins un vernis minimum pour pouvoir justement savoir ce qui est possible de faire avec ces nouvelles compétences et avoir les bonnes perspectives. Le deuxième élément, c'est un réseau d'ambassadeurs. Donc, dans chacun de nos pôles, expertise sectorielle ou expertise métier, on va avoir des ambassadeurs, donc des gens qui sont vraiment spécialisés sur la data, sur le design et sur la transformation humaine. Et puis, troisième élément, et je pense que c'est un des plus importants, c'est finalement la mise en relation, la collaboration avec d'autres types de compétences et du coup, d'autres types de profils et de métiers. Donc ça peut être en interne. Aujourd'hui, on a plus de 25% de nos effectifs qui sont spécialisés sur les sujets data, data gouvernance notamment. On a aussi des designers et aussi en externe. On est en train de développer une plateforme de mise en relation avec des experts d'autres métiers. Et c'est finalement aussi, à mon sens, le contact avec ces experts-là qui crée vraiment l'hybridation.
Et Audrey, pour vous, comment on fait pour mettre en place très concrètement l'hybridation à l'échelle de l'entreprise?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Béatrice vient de dire. Pour moi, il n'y a pas de mode d'emploi et ça serait dangereux qu'il y ait un mode d'emploi parce que mettre en place un mode d'emploi vous amènerait en tout cas le risque de tomber dans un nouveau dogme et de s'enfermer, alors que justement l'hybridation, c'est l'ouverture. C'est ça qui compte, c'est l'ouverture, la curiosité et l'exploration, l'expérimentation. Donc, on y va à tâtons. On voit ce qui se passe, on réajuste, on réadapte, on reprend en compte certains critères ou certaines idées des uns et des autres. Ça passe comme ça, c'est de l'exploration continue.
Je vous pose la question à toutes les deux. Selon vous, qui est le plus réfractaire finalement au changement? Alors, quand on dit réfractaire, c'est qui va être le moins flexible, avec qui va y avoir le plus de travail à faire autour de changement? Est-ce que c'est plutôt l'entreprise ou le collaborateur? Audrey, si vous voulez commencer.
Alors, j'aime pas votre question.
Je me doute, c'est pour ça que je l'ai un peu
reformulé. Oui. Non, mais évidemment, sous forme de boutade, je vous réponds comme ça. J'aime pas la manière dont c'est formulé parce que, effectivement, ça, alors, pour moi, il n'est pas question de changement. Enfin, le mot changement est un petit peu vicieux, j'ai envie de dire, parce que, surtout dans le monde de l'entreprise, il y a tout un tas de réalités qui tournent autour de cette notion de changement, accompagnement du changement, etc. Et donc, chacun a sa vision et son expérience de ce qu'est le changement. Pour moi, il n'est pas question de changement, il est question d'un retour à la normale, on va dire. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, dans nos activités professionnelles, dans notre rapport au travail, etc., c'est pas la normale. C'est une suradaptation à des besoins d'une société à un temps donné. Mais c'est pas normal par rapport à qui on est en tant qu'être humain. Donc, j'ai envie de dire, naturellement, l'être humain, s'il sait s'écouter, il va y aller naturellement. Donc, ça ne va pas être un changement, ça va être juste un retour à un équilibre. Ça, c'est bien dit, mais n'empêche qu'on est aussi des êtres imbibés de conditionnements et que ce n'est pas évident de sortir de ces conditionnements qu'on a. Voilà, donc pour moi, il n'est pas question de changement, il est question de retrouver un équilibre qui soit plus fluide pour tout le monde, individuellement et collectivement. Après, c'est une question de culture d'entreprise aussi et de qui la dirige, comment elle est pilotée, comment elle est gérée, etc. Donc, il y a des entreprises qui de toute façon, vont avoir énormément de mal et il y en a d'autres pour qui elles sont déjà dedans. Elles sont déjà dans la mise en place et l'intégration de cette hybridation à tous les niveaux. Donc, c'est très difficile de répondre globalement à ce genre de questions. Et de la même façon pour des individus. Il y en a qui ont déjà plusieurs activités et qui jonglent comme ça naturellement, et d'autres qui ont besoin de cette sécurité de la routine. Tout ça, c'est vraiment entre guillemets, évidemment, pour vraiment montrer les deux extrêmes, avec tout un panel entre les deux. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à répondre globalement à cette question-là, en fait.
On comprend l'idée. Béatrice, chez Aiko, qui, alors on va la poser de façon positive, chez Aiko, qui est le plus ouvert à ce changement et qui est le plus volontaire, si on peut le dire comme ça? Ce serait plutôt côté entreprise ou côté collaborateur?
Je pense que c'est dans l'ADN de l'entreprise. Donc forcément, tous ceux qui la rejoignent ont ça aussi dans leur ADN. Après, pour moi, effectivement, c'est ce que dit Audrey, le pluriactivité, finalement, c'est inné, c'est pas un problème, c'est pas une difficulté. Le pluricompétence, au sens de développer de nouvelles compétences pour réaliser ces activités, hein, qui est le plus difficile, et c'est ce que disait Audrey, c'est ceux qui sont le plus conditionnés depuis le plus longtemps. Donc c'est les hyper spécialistes qu'ils sont depuis longtemps. Je pense que c'est là où c'est le plus difficile, parce que finalement, en s'hybridant, on se confronte, encore une fois, à d'autres types de profils. Et le plus difficile, c'est d'aller sur le terrain de jeu de l'autre, d'adapter son point de vue, d'adopter son point de vue, pardon, d'accepter de tenter une nouvelle approche. En fait, quand on a développé des méthodologies robustes depuis un certain nombre d'années, c'est difficile de se dire, bah tiens, maintenant je vais travailler avec un designer et je vais aborder le problème d'une manière complètement différente. Et c'est ça qui est, je pense, le plus difficile, c'est d'accepter d'aller sur le terrain de jeu de l'autre et pas demander au designer de se plier à la méthodologie qu'on a développée depuis X années, en fait.
La question peut sembler un peu naïve comme ça, mais Béatrice, selon vous, est-ce que expérimenter l'hybridation rend finalement intelligent et créatif?
Alors intelligent, je sais pas. Plus compétent, ça c'est sûr. Plus créatif, bien sûr, parce que finalement, en se confrontant à d'autres types de profils et en développant de nouvelles compétences, on apprend à voir les choses différemment. Encore une fois, on développe de nouvelles perspectives et on s'ouvre aussi à d'autres façons de penser. Et donc forcément, c'est ce qui crée l'innovation.
Audrey, vous partagez cette opinion, l'hybridation finalement va faire ressortir la créativité les talents de chacun.
Alors oui. Et j'ajouterais ces capacités d'adaptation qui sont inhérentes au fait de pouvoir échanger, collaborer avec des mondes différents. Parce qu'effectivement, quand les métiers se rencontrent, ce sont des mondes différents qui se rencontrent, avec des états d'esprit et des logiques différentes. Donc ça amène plus de créativité et plus d'adaptabilité à l'inconnu, à trouver des solutions, à explorer. C'est ça aussi qui est extrêmement important. Enfin, que je trouve extrêmement important pour à la fois pour l'entreprise et pour l'individu en tant que tel.
Et comment vous voyez le monde du travail évoluer, Audrey ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que l'hybridation permet un nouveau rapport au travail ?
Alors oui, mais ça marche pas que dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi je parle depuis un moment de mutation anthropologique. Donc on n'est pas simplement dans un changement de mode de faire, on est vraiment dans une rupture totale de civilisation, j'ai envie de dire. Et donc le rapport au travail est en train de s'effondrer. Enfin notre ancien rapport au travail est en train de s'effondrer pour se réinventer. Donc l'hybridation participe à ça. Donc à la fois, elle est moteur et elle est conséquence de ça. Et on le voit dans différents domaines, avec notamment les difficultés des entreprises pour embaucher aujourd'hui de plus en plus, avec les phénomènes de grandes démissions que l'on voit. Alors on en parle beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment, mais c'est déjà le cas en France, hein. On se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui démissionnent de manière de plus en plus conséquente, et donc on ne peut que constater qu'il y a une crise du travail, on va dire, même si certaines entreprises fonctionnent très bien, il y a quand même une crise du travail avec les individus qui veulent autre chose. Alors c'est pas forcément être à leur compte, hein, mais c'est autre chose, ça peut être du polysalariat, ça peut être du polystatut, ça peut être travailler à temps partiel. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont plus que des idées, qui sont dorénavant expérimentées, et l'entreprise se trouve confrontée à ça. Donc ça, c'est un constat, et de mon point de vue, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et on le voit notamment avec les jeunes générations. Alors on parlait de génération Y, Z, etc. Peu importe, c'est pas de ça dont il est question. C'est cette jeune génération, on va dire de moins de 30 ans aujourd'hui, a une conception du travail qui est totalement, et de la réussite dans la vie, on va dire, et je mets ça entre guillemets parce que le terme n'est pas très beau, qui est complètement différent des seniors. Aujourd'hui. Et quand je dis senior, c'est plus de 35 ans. On n'est pas du tout sur les mêmes états d'esprit, pas sur les mêmes attentes. Et donc, ça amène forcément une confrontation au niveau des entreprises à se dire, mais comment on va faire pour recruter, pour garder, pour donner envie que les gens viennent vers nous, comment on s'y prend. Donc, c'est vraiment une question sociétale et une question civilisationnelle qui se pose. Et là où on parlait de travail, je pense qu'on va parler de plus en plus d'activité, parce que le travail a vraiment cette notion aussi d'effort, d'attendre longtemps avant d'avoir le fruit de notre travail, etc. Enfin, il y a toute cette idée de tripalium, hein, si on prend l'étymologie, alors que les jeunes, d'une part, et tous les plus seniors qui ont aussi vécu notamment des grosses crises professionnels, que ce soit des burn-out ou des harcèlements ou enfin bon, tout un tas de choses, voilà, ils prennent de plus en plus d'ampleur quand même, hein, et eux cherchent autre chose aussi. Donc il y a des courants qui se mettent en place avec les jeunes générations et avec une autre population active qui a souffert, on va dire, et qui instaure un nouveau rapport à l'activité professionnelle. Et les entreprises sont déjà confrontées à ça. Donc oui, c'est vraiment un nouveau rapport au travail qui se met en place. Et je pense qu'on sous-estime encore énormément l'ampleur du phénomène.
Béatrice, comment vous voyez, vous, évoluer ce rapport au travail au sein d'AICO ?
Je pense que finalement, on essaye d'apporter une partie de réponse, mais ce ne sera qu'une partie de réponse. Finalement, l'hybridation, c'est ce qui donne aussi un peu plus de liberté. Et on le voit effectivement, les jeunes générations, quand on voit peu d'intérêt pour un CDI qui voit parfois plus comme un fil à la patte que comme un aspect de liberté. On sent que finalement, cette hybridation, cette pluricompétence, c'est pour eux gage de liberté parce que d'employabilité. Et finalement, le côté maker, pour nous, c'est aussi ce qui donne du sens, parce que finalement, on voit la concrétisation de ce qu'on fait, on se rend compte de l'intérêt de ce qu'on fait. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, nous, je vous avoue qu'on a un pilier complémentaire qui est le for good. Donc, c'est cet engagement social, environnemental qui... pour nous, donne du sens aussi à notre engagement professionnel.
Finalement, au-delà de l'entreprise, est-ce qu'on est aujourd'hui face à un réel changement au niveau sociétal, dont finalement l'hybridation est un des symptômes ?
Oui, complètement. Et je rejoins aussi ce que Béatrice disait à l'instant. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre civilisation, au niveau de la société, c'est remettre du sens, remettre de la simplicité aussi. On parle beaucoup de complexité, etc. Oui, on est dans un monde extrêmement complexe qui s'est complexifié énormément ces dernières décennies. Mais je pense que en parallèle de cette complexité, il y a aussi une appétence à beaucoup plus de simplicité. Et de simplicité dans notre rapport au travail aussi. Est-ce que ça fait sens de faire ça ? Oui, ben je le fais. Est-ce que ça fait plus sens ? Ben non, ben j'arrête. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place aussi. Le sens et la simplicité, c'est ça que je pense qui est prédominant dans ce nouveau rapport au travail et cette mutation complète de la société et de la place du travail dans nos vies, en fait.
Ce sera la conclusion de cet échange. Donc, merci Audrey et merci Béatrice d'avoir partagé avec nous vos réflexions.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast sur l'entreprise de demain avec Aïko et Uzbek Erika.